Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous permettre de découvrir l'ouvrage d'un duo d'auteurs, Henri Bourguina et Éric Brice, L'arrogance de la finance, qui est paru en ce début d'année à la découverte et qui comporte pas moins de 227 pages et qui est donc d'une brûlante actualité. Alors le sommet du G20 de Pittsburgh qui vient de se tenir en Amérique avec les plus grands chefs d'État de la planète aurait sans doute aussi pu s'intituler « Comment mettre fin à l'arrogance de la finance ». L'arrogance, c'est un comportement d'orgueil, une manière hautaine et méprisable, une morgue dont on a abondamment gratifié la planète finance, les banques, les traders et autres intermédiaires financiers. Ce péché d'orgueil est présent dans l'ouvrage que le professeur Bourguina va maintenant commenter avec nous. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour, cher confrère.
Alors, vous venez de faire paraître en début d'année, on va dire, cet ouvrage. Vous l'avez coécrit avec Monsieur Brice. Je vais, peut-être avant que nous rentrions dans l'actualité du sujet, rappeler un peu vos parcours respectifs. Alors, Henri Bourguina, vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université Montesquieu Bordeaux 4. Et vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont les et nombre d'étudiants ont en mémoire les intégrismes économiques, essai sur la nouvelle donne planétaire en 2006, finance internationale en 2007. Et depuis 2004, vous êtes un chroniqueur à la fois écrit et télévisuel assez régulier sur les grands médias. Et vous n'avez cessé d'alerter sur les risques de rupture du système financier. C'est à peu près ça, professeur.
Oui, c'est à peu près ça. Pour rebondir sur le dernier point, je voudrais dire que en 2004, j'ai été responsable scientifique d'un groupe qui a été créé à l'initiative de l'UMP, dont je ne suis pas membre, mais donc j'ai eu l'occasion d'intervenir comme expert. Ce groupe a établi un rapport sur les risques du système financier qui a été transmis au ministre de l'époque, qui n'était autre que Nicolas Sarkozy, ce qui nous a valu une correspondance tout à fait satisfaisante pour les auteurs du ministre de l'époque. Malheureusement, nous avertissions là de façon très nette qu'il risquait de se passer quelque chose, que la finance était un casse-cou que l'on pouvait pressentir. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite donnée très manifeste.
Alors, je présente en même temps votre co-auteur, Éric Brice, donc qui est professeur associé au CEREMIA de l'Université des Antilles et de la Guyane. Il a été professeur de finance à HEC pendant 10 ans. Il est cofondateur de cyberlibris.com. Il a passé plusieurs années dans les grandes banques internationales, dont certaines de sinistre mémoire, Lehman Brothers, Merrill Lynch et Deutsche Bank, où il a acquis une riche expérience des salles de marché. Il est l'auteur de 8 livres consacrés à l'économie et à la finance. Est-ce qu'on peut pardonner aux banquiers et au système financier? Alors ça, c'est la question de votre livre. Pardonner, on peut toujours pardonner les péchés. Mais cela étant, revenant sur le diagnostic, un point qui m'a frappé dans votre ouvrage, c'est en fait ce que vous dénoncez de la dérive de la théorie financière, et y compris celle portée par les plus grands noms, des prix Nobel, etc. À un moment donné, bien sûr, tout à fait au début de la crise, on a aussi jeté un peu aux hégémonies les mathématiques financières. Et l'accusation s'est un peu portée sur ce plan, mais ça a été assez vite abandonné. Et par contre, votre ouvrage vous porte des développements très forts sur ce point. Peut-être pouvez-vous y revenir en quelques mots, professeur.
Tout à fait. Tout à fait. Je voudrais dire que le sous-titre que porte notre ouvrage en revanche la finance est le suivant: comment la théorie financière a produit le crack. C'est un peu peut-être une exigence aussi d'éditeur. Il eût mieux valu dire comment la théorie financière a aussi produit le krach, parce que la théorie financière a des responsabilités, à notre avis, qui sont difficilement niables, mais en même temps, il est d'autres responsabilités, l'avidité, l'arrogance des acteurs a fait aussi autant ou plus que la théorie. Mais la théorie a sa part, effectivement, dans le procès qui est fait aujourd'hui à la finance, ce que l'on pourrait appeler la finance académique à plusieurs points de vue.
Oui. Alors, sur quel point ?
Alors, si vous souhaitez que je le détaille, je peux tenter de le faire brièvement.
Oui, alors c'est peut-être pas le détailler, enfin, on va dire
oui,
que pour un large public.
Je vais prendre quelques éléments révélateurs, quelques marqueurs, si je puis dire. Je considère d'abord la théorie, le leitmotiv qui est intervenu pour justifier ce qui s'est passé sur les marchés financiers, qui intervient à partir de l'appellation du modèle de base, qui est le modèle originate and distribute. Traduisons, si vous voulez, de façon non littérale, générons, donnons l'origine, soyons à l'origine et ensuite transmettons, distribuons. C'est une idée qui est évidemment tout à fait centrale. Pendant des années, pratiquement depuis la fin des années 90, la théorie économique a dit le fin du fin en matière de justification du développement de la finance, c'est de dire que celle-ci a trouvé une sorte de pierre philosophale qui lui permet, si vous voulez, de transformer des crédits en titres, donc de développer la titrisation, qui revient finalement à être à l'origine de crédits que l'on transforme en titres et qu'ensuite on distribue un peu à l'image de la semeuse, un peu partout et dans le monde entier, sous forme d'obligations qui sont adossées aux fameux dérivés de crédits. Et ces obligations sont en quelque sorte disséminées ensuite au niveau de tous les centres financiers, non seulement au niveau des banques, au niveau des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou des fonds d'investissement, des particuliers eux-mêmes. Et on nous a dit, mais ceci est une garantie extraordinaire parce que est une garantie et un avantage extraordinaire parce que cela permet de granulariser. C'était cette image de la granularité du risque était à la mode à ce moment. Ça permet de granulariser le risque et ça permet de le couper, si vous voulez, de le découper en brins aussi extrêmement fins et de le faire porter par un nombre d'acteurs sans commune mesure avec ce qu'auraient été les seuls acteurs bancaires. Donc on a, en quelque sorte, à ce moment-là, sur la base de ce modèle, on a voulu dire qu'il y avait une sorte de révolution qui était tout à fait justifiée par cet émiettement du risque.
C'est ça. Alors donc, c'est ce phénomène de titrisation, en quelque
sorte.
C'est
le phénomène de titrisation. Alors, notre position, si vous voulez, c'est que la titrisation, c'est une technique intéressante. Elle est intéressante à condition d'être maîtrisée. Elle est intéressante pour ce que l'on pourrait appeler la titrisation de la première génération. Ça permet donc, pour résumer l'argument, ça permet par exemple à une banque qui a ouvert un crédit à des particuliers ou à des sociétés qui s'occupent de crédit logement. Ça permet donc de permettre la revente de du risque afférent à cette créance et ensuite de mettre en œuvre des programmes d'émission d'obligations et donc de découper, d'émietter, comme je le disais tout à l'heure, ce risque. Donc la titrisation première génération a un certain intérêt, mais il y a eu une sorte de dérive absolument
une forme de perte de traçabilité.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a finalement perdu toute trace du risque. C'est la première dérive, si vous voulez. Une dérive très redoutable, parce que, bien entendu, c'est assez intéressant que de dire que l'épargnant européen ou asiatique finance des programmes de construction qui ont lieu aux États-Unis, qui est dans le cadre notamment de subprime. Mais si on ne sait plus, au bout d'un certain nombre d'opérations d'achat et de revente, si on ne sait plus où est le risque, c'est ce qui s'est passé en fait au moment de la crise du subprime, on arrive très rapidement à une impasse. Donc voilà une première dérive. Il en est une seconde, c'est que pour tenter d'éviter la réglementation de Bâle, la fameuse réglementation concernant les fonds propres. Les banques ont pris une habitude qui est un peu à l'autre extrémité de la précédente. Elles ont pris l'habitude de créer en parallèle à elles-mêmes des structures de cantonnement qui ont pris des noms divers, des SIV, donc Social Investment Structures, ou des conduits, et qui ont une existence qui leur a permis d'éluder les obligations de fonds propres et qui leur a permis ensuite d'acheter certaines de ces obligations aux banques, qui les a permis de les revendre à d'autres acteurs comme les hedge funds, et qui a conduit à multiplier les intermédiaires, à créer des opérations qui ont été des opérations faites pour elles-mêmes, souvent parce qu'elles généraient des commissions qui sont extraordinairement intéressantes, pour ne pas dire juteuses. Et donc, deuxième dérive, en quelque sorte, la partie du risque qui n'a pas été transmise et qui n'a pas été donc renvoyée à la périphérie a été conservée dans le cadre de cet entre-deux qui est à la fois formé par les banques et par les structures de cantonnement. Et bien entendu, ceci a été la source d'une opacité, d'une complication extrême des instruments. Je pense par exemple ici à Warren Buffett, vous savez, le gourou américain, donc, qui est bien connu, et qui, à propos de ses obligations, disait « Le fonctionnement des CDO avec ses obligations appuyées sur des crédits hypothécaires est incompréhensible. Chacune dépend de 50 crédits différents. Pour savoir ce qu'il en retourne, il faut donc lire 50 brochures de 300 pages, ce qui fait déjà beaucoup. Mais d'autres instruments s'appuient à leur tour sur ces CDO. Si vous voulez lire les brochures, vous aurez 750 000 pages. » Et ajoutez Warren Buffett, qui est un bon connaisseur en la matière, c'est ridicule. Donc il y a eu une complexification extraordinaire de ces instruments de crédit. Alors d'un côté, on a perdu la trace des brins de risque qui étaient transférés, et de l'autre côté, on a obtenu des chaînes d'opérations très emmêlées, quelquefois incestueuses, et le résultat a été très vite une perte de contrôle.
D'accord. Une perte de contrôle. Alors, le point sur lequel peut-être, ça va être difficile de rester très simple, mais vous pouvez en dire quelques mots. Sur une partie du cinquième chapitre, vous parlez de la roublardise de la théorie. En quoi, si vous voulez, la théorie financière a apporté sa propre pierre à, on va dire, l'écroulement de l'édifice? C'est-à-dire, en quoi les virus de réflexion de théorie financière sont partis en dérive, en quelque sorte?
Oui. On pourrait en donner plusieurs preuves, mais pour revenir à la terminologie que vous mentionnez à partir de notre livre, cette notion de roublardise de la finance, c'était pour noter que, au point de départ, la finance, mais il y a de cela plusieurs décennies, la finance des années 1950 était une finance relativement simple et relativement honnête, mais peu à peu, elle s'est elle aussi complexifiée et elle a perdu un peu, j'allais dire, le sens des réalités. J'en donnerai, si vous voulez, quelques exemples. Bon, si je prends notamment la finance en ce qui concerne la théorie du portefeuille, en ce qui concerne les options, bon, c'est une finance qui, finalement, ne fait pas intervenir les acteurs, en quelque sorte. Oui. C'est une finance qui n'est pas du tout fondée sur ce que l'on connaît en matière de théorie de base, qui est la théorie de l'agence. C'est une finance donc dans laquelle pratiquement les institutions n'interviennent pas ou interviennent très, très faiblement. Alors ça, c'est une partie, si vous voulez, de la finance. Et par contre, dans l'autre partie de la finance, qui est la finance, j'allais dire, classique, à la Jensen-Allen, nous avons une finance qui est entièrement fondée sur la théorie de l'agence. Donc il y a là deux mondes qui s'ignorent. Or, ce sont deux mondes qui, évidemment, ont ici ou là des connexions. Donc si je voulais un autre exemple, si vous voulez, ou une autre preuve de cette dérive de la finance, je dirais notamment que dans le CAPM, dans le modèle de portefeuille à la Markowitz Sharpe.
C'est ça. Ce sont les grandes références, on va dire, pour les non-initiés.
Oui, c'est une référence évidemment centrale. Tout se passe, et si, ici je cite un auteur américain qui s'appelle Cochrane, tout se passe comme si les individus étaient tous des retraités assis sur des montagnes d'actions et de bons du trésor. Tout se passe comme si on avait affaire à un monde de rentiers. Or, ce monde de rentiers, ce n'est pas tout à fait ainsi qu'il s'organise. Il y a aussi des consommateurs, il y a aussi des investisseurs, si vous voulez. Donc voilà un autre exemple. La théorie financière, au fur et à mesure qu'elle est devenue à vocation ou à prétention de plus en plus scientifique, a fait intervenir des petits et grands arrangements qui finalement la mettent un peu en cause. Je donnerai deux ou trois illustrations. Le portefeuille de marché auquel tout le monde se réfère, et c'est quelque chose qui a été signalé par Roll dès 1997, n'est pas testable. Donc vous voyez, c'est déjà une limite.
Tout à fait.
Si je prends la théorie de valorisation des options, celle-ci va conduire toute son analyse avec des marchés complets, avec cette hypothèse de complétude des marchés. Dans la ligne de Darrow de Breu, on va raisonner comme si toutes les incertitudes pouvaient être éliminées parce que l'on a assez de créances contingentes, donc d'instruments dérivés qui permettent finalement de se prémunir contre toutes les catégories de risques. Donc ceci est manifestement excessif. Il y a donc une sorte de réduction dans cette théorie financière moderne. Je ne parle pas aussi de tout l'aspect statistique. La théorie financière moderne résonne toujours, ou en tout cas dans la majorité des travaux, dans le cadre d'un univers gaussien. Or, on sait que ce qui se passe d'important, et notamment lorsqu'il y a des tsunamis financiers comme celui qui s'est produit en 87, ça se passe dans les queues de distribution. Donc, il y a une série de simplifications. On fait comme si, et en fin de compte, on se coupe de la réalité.
Donc, c'est un péché d'orgueil scientifique, en quelque sorte.
C'est un péché d'orgueil scientifique.
Et un dévoiement des modèles mathématiques de la finance moderne, en quelque sorte.
Oui, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a dans la mathématique financière souvent une nécessité, mais il ne faut pas passer, si vous voulez, d'un modèle qui est un modèle épuré à la réalité. Par exemple, ce que je signalais au point de vue de la dichotomie entre l'aspect théorie de l'agence d'un côté et une ignorance pour tous les modèles risque-rendement, une ignorance du rôle, si vous voulez, entre le principal et l'agent, ou du débat entre le principal et l'agent, il y a, si vous voulez, une simplification extraordinaire, et de cela, les quants, les fameux ingénieurs mathématiciens, n'ont pas suffisamment tenu compte.
Je crois qu'on a bien développé ce point central de votre livre, et je renvoie nos auditeurs, bien sûr, à la lecture de cet ouvrage qui comporte une partie centrale sur cet aspect, et qui est absolument enrichissant, et je les invite à se précipiter sur l'arrogance de la finance. Mais ça, c'est pour le diagnostic. Est-ce que actuellement, notamment en matière de recherche fondamentale, parce que je crois que là, il y a un péché, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé de façon à corriger, en tout cas, ou en tout cas, à améliorer la prise de conscience des limites de ces modèles mathématiques ?
Écoutez, je pense qu'au niveau des auteurs, nombreux ou assez nombreux sont les auteurs qui ont pris conscience de ce risque. Je pense par exemple à un manifeste qui a été établi par des auteurs en Europe, notamment avec Alan Kiernan, avec Müller en Allemagne, avec toute une série d'auteurs qui ont finalement franchi le pas et qui ont dénoncé les prétentions peut-être excessives de la théorie financière.
Le professeur Walters aussi, Christian Walters, que vous connaissez sans doute, qui travaille beaucoup sur ce sujet.
Oui, il y a donc quand même une prise de conscience, incontestablement. Mais c'est une prise de conscience qui est un peu ambiguë, je crois, parce que on trouve d'assez nombreux auteurs. Je crois que nous en avons eu des exemples, notamment dans certaines publications européennes et même françaises, de certains auteurs qui, notamment, ont proposé des modèles financiers et qui disent finalement, nous avons peut-être fait des erreurs parce que nous n'avons pas été assez complets, si vous voulez.
Ah oui, d'accord. Donc là, c'est
le risque, c'est de faire des enfants encore avec des possibilités de malformation plus grandes encore. Je prends par exemple la question de la liquidité. Il est tout de même un peu extraordinaire que les modèles qui ont été les plus en vogue dans les périodes qui ont précédé la crise aient ignoré l'aspect liquidité. Donc on réintroduit aujourd'hui dans les modèles la liquidité, mais ce que l'on aimerait, c'est en même temps qu'une simplification intervient. Et là, on peut avoir quelques doutes.
D'accord, parce qu'effectivement, le risque systémique a été très proche et la liquidité a été la grande cause de cette situation.
Tout à fait.
Absolument. Elle a été complètement sous-estimée dans les modèles. Alors, on va envoyer les modèles mathématiques au purgatoire pour l'instant et on va revenir sur l'actualité. Et si vous le voulez bien, je vous retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure.
Canal Academy vous propose un grand entretien avec Michel Serres de l'Académie française sur la notion d'identité. Quelle différence entre identité et appartenance? Qu'est-ce que l'hominescence? Quel rapport entretenons-nous avec notre corps? Autant de questions auxquelles répond Michel Serres dans une émission Éclairage en libre téléchargement sur Canal Academy.
Eh bien, chers amis et auditeurs de Canal Academy, nous retrouvons le professeur Bourguignat qui vient de coécrire avec Éric Brice « L'arrogance de la finance », un ouvrage particulièrement remarqué qui souligne comment la théorie financière a produit le crack. Alors, nous en venons maintenant, professeur, si vous voulez bien, à l'actualité. Les mathématiques ont une responsabilité, mais il n'y a pas que. Et actuellement, ceux qui sont les plus mis au pilori, ce sont les banques. Alors, la responsabilité des banques anglo-saxonnes, elle est bien connue. Les Français, les banques françaises ont, elles aussi, subi des attaques absolument brutales. Qu'en pensez-vous? Sont-elles des acteurs, des co-acteurs, des complices ou simplement des victimes collatérales?
Écoutez, je voudrais peut-être nuancer un peu le propos, car je suis de ceux qui considèrent qu'une économie moderne ne peut fonctionner qu'avec une finance saine et une finance prospère. Donc je crois qu'il ne faudrait pas vouer aux gémonies le système bancaire. Néanmoins, il est incontestable que le système bancaire a une responsabilité sociale qui est considérable. Songeons quand même que 51 millions de chômeurs de par le monde qui ont été touchés après la crise financière, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Songeons que, comme le disait Joseph Stiglitz il y a quelques jours, le point bas est peut-être derrière nous, et encore que ce n'est pas certain, mais, disait-il, les choses commenceront à s'améliorer d'ici un an ou deux, mais dans 3 ou 4 ans, nous serons à peine guéris. Vous voyez, donc la responsabilité bancaire est, je crois, réelle. Et le problème, c'est que les banques aujourd'hui vont fonctionner sur un mode qui est, je crois, fondamentalement modifié. Pourquoi ? Parce que les banques, vous le savez, ont fait l'objet d'opérations et de plans de renflouement ou de sauvetage qui ont été un peu généraux de par le monde entier, aux États-Unis, en France, dans tous les pays. Et ces banques, finalement, ce qui serait évidemment assez dramatique, c'est qu'elles aient désormais la conscience que, pratiquement, quoi qu'elles fassent, elles seront toujours sauvées par une intervention de l'État.
C'est le fameux aléa moral.
Nous appelons l'hypothèse de risque moral.
Tout à fait.
Donc le risque moral, c'est aujourd'hui quelque chose que l'on admet presque, puisque les banques sont, comme on l'indique, too big to fail, trop grosses pour s'effondrer, et dès ce moment, les États sont prêts à intervenir. Alors, bien sûr, je ne veux pas dire que les banquiers vont, s'amuser à se mettre ou à prendre des risques tout à fait inconsidérés, à se mettre plus encore que par le passé en difficulté. Mais il est néanmoins à peu près évident que le fait de savoir d'être garanti in fine pourrait les amener à augmenter leur prise de risque. Et ce genre de situation serait tout à fait, évidemment, catastrophique. Par conséquent, il faut bien prendre note de ce que la gestion bancaire aujourd'hui, avec cette irruption et cette sorte de reconnaissance du risque moral, eh bien cette gestion bancaire et financière peut conduire à de nouveaux mécomptes. Et donc à cela, il faut être très attentif.
Voilà. Alors vous pensez qu'une gouvernance financière internationale peut faire progresser les choses? Et d'abord, y a-t-il une lueur d'espoir pour que émerge progressivement une gouvernance financière internationale?
Écoutez, au risque de vous surprendre, je suis de ceux qui considèrent, mais je dois dire que il y a d'autres auteurs, notamment à l'étranger, qui ont le même point de vue que moi, que, bien sûr, la réponse qui consiste à dire il n'y a de régulation possible qu'au niveau international est une réponse dangereuse, parce que c'est une sorte de faunée, c'est une sorte de prétexte pour bouger le moins possible, si vous voulez. Je crois qu'il faudrait que chaque pays commençât à balayer devant sa porte. Il faudrait qu'il n'attende pas, si vous voulez, systématiquement qu'une sorte de consensus international émerge pour bouger. Je crois que chacun doit manifester, si vous voulez, une ligne et définir cette ligne. Je crois qu'il y a de multiples domaines dans lesquels cette règle est vérifiée.
Et l'Europe et la France sont en première ligne pour montrer le sens de l'histoire, alors?
Oui, je pense que l'Europe devrait être concernée, mais j'ai quelques inquiétudes quand je vois nos amis d'Albion qui ont des intérêts qui ne sont pas tout à fait ceux du continent européen, quand je vois la manière donc extrêmement habile dont ils procèdent, ils sont d'accord sur les grands principes, mais lorsqu'on en vient aux applications, ils sont beaucoup plus réservés, je m'interroge. Si l'on attend un consensus mondial, j'ai des doutes.
Oui, ça sera...
Par exemple, on l'a vu sur un certain nombre de sujets. On l'a vu sur les paradis fiscaux. Reprenons, si vous voulez, ce qui s'est passé à l'avant-dernier sommet de Londres. Oui. Bien sûr, on a établi ces listes, mais ça a été une pantomime, en quelque sorte. Il est arrivé un moment où seul ce malheureux Costa Rica figurait dans la liste grise des paradis fiscaux qui étaient les plus considérés comme les plus illicites.
Oui, ça s'est tourné en mascarade, carrément.
C'est une mascarade.
Tout à fait.
Donc, ce qu'il faudrait éviter à tout prix, c'est qu'il en fût ainsi. Et vous avouerez que j'ai ici quelques inquiétudes sur un problème particulier qui est celui des bonus.
Oui, alors, les bonus.
Alors, les bonus...
Et les malus, les bonus et les malus.
Les bonus et les malus. Dans notre livre, nous essayons de dire, et c'est un livre qui a déjà quelques mois, oui. Donc nous essayons à ce moment de dire il ne devrait pas y avoir de bonus sans malus.
Tout à fait.
J'allais dire que ma pensée a un peu évolué depuis lorsque je vois les propositions qui sont faites. On nous dit par exemple pour les opérations qui donnent lieu au bonus, il faut adopter des points de vue à long terme, il faut attendre que les opérations soient débouclées, il faut les verser après avoir évalué le risque couru par l'entreprise. Ces idées sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, et d'ailleurs nous les avions abordées dans notre livre, mais elles sont extrêmement difficiles, notons-le bien, à mettre en œuvre. J'en viens notamment à la nécessité de faire intervenir des malus, alors logiquement c'est une symétrie qui paraît tout à fait convenable et tout à fait légitime. Celui qui fait gagner son entreprise devrait être récompensé, mais s'il fait perdre son entreprise, mais ceci est extrêmement difficile. Et j'ai noté par exemple que lors de la réunion à la présidence de la République en France, on a entendu le représentant de l'une des principales banques françaises dire oui, bien sûr, pour le malus, nous agirons, mais en fonction de ce qui sera fait sur le plan international. Et c'est là où j'en reviens au propos précédent. Je crains qu'il ne faille attendre un certain temps avant que le malus soit reconduit sur un plan international.
Oui, non, mais je partage votre avis, d'autant qu'en matière de régulation, on voit bien qu'il y a deux écoles, deux philosophies au-delà des mécanismes qui, eux, peuvent effectivement rapprocher les points de vue. Il y a d'un côté, on va dire, l'Europe, la France, qui sont des tenants de la mainmise de l'État, du retour de l'État. Il y a un journaliste du Figaro qui disait « Au secours, l'État revient ». Mais il y a un peu de ça, hein, cette tradition européenne et française avec l'État qui régule. Et de l'autre côté, l'école anglo-saxonne, en particulier les Américains, qui, eux, sont plus orientés vers la légitimité de l'actionnaire. Et on dit, ce sont les conseils d'administration qui devront dire ce qui va bien, ce qui ne va pas bien sur les rémunérations et leur niveau. Et donc là, déjà, on voit bien que les philosophies sont relativement éloignées. Alors après, bien sûr, il y a la communication, il y a le nécessaire consensus de façade, mais on voit bien que sur le fond, les choses ne sont pas très faciles.
Mais écoutez, enfin, je crois que nous convergeons tout à fait sur ce point. C'est souvent un peu un jeu de poker menteur qui intervient en matière de régulation avec des oppositions qui sont des oppositions fortes, même si elles ne s'expriment pas nettement. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que avec ce qui se passe au niveau mondial après la crise financière, nous avons une concentration tout à fait significative du secteur bancaire, du pouvoir bancaire, notamment des banques d'investissement et même des banques universelles. Si je prends notamment le cas européen, il y a en Europe aussi une concentration. Donc nous arrivons à des groupes ou à des banques qui ont une dimension, qui ont un bilan qui devient un peu disproportionné par rapport à ce qu'est, par exemple, le PNB d'un pays de moyenne dimension comme le nôtre. J'observe, par exemple, qu'une grande banque française, qui est d'ailleurs la plus grande après donc l'opération qu'elle a réalisée avec Fortis, je veux parler de BNP Paribas, a un bilan qui dépasse aujourd'hui le chiffre du produit national français. Donc sans doute, d'un côté, nous avons des flux et de l'autre côté, un stock, mais il n'empêche qu'on s'aperçoit que ces banques ont aujourd'hui un niveau de concentration et une dimension qui est excessive, ce que j'appelle l'oligopole bancaire. L'oligopole bancaire, qui est un oligopole qui est en fait assez fortement conditionné, ne va pas tout à fait dans le sens de la concurrence. Et donc, pour ma part, s'il faut, je crois, en matière de régulation, s'occuper, bien sûr, des bonus, des paradis fiscaux, j'aimerais assez qu'on s'occupe aussi de la structure des banques, y compris des banques françaises, et qu'on... il est question de cela très fréquemment aujourd'hui dans la littérature spécialisée américaine, que l'on fit des banques peut-être plus limitées, plus spécialisées, et qui ne soient pas ces sortes de mastodontes que finalement personne ne contrôle vraiment.
Vous pensez que c'est quelque chose qui pourra rentrer dans les faits, c'est-à-dire de ramener, de faire éclater les banques en quelque sorte?
Écoutez, je suis absolument frappé dans la littérature théorique américaine aujourd'hui, beaucoup plus qu'en Europe d'ailleurs. Peut-être parce qu'il y a eu quand même cette disparition de plusieurs banques d'investissement et cette montée en puissance de Goldman Sachs et de quelques autres. Cette idée est caressée et souvent étudiée donc beaucoup plus fréquemment qu'en Europe. Et je pense que c'est une préoccupation qui est nécessaire si l'on veut, si vous vouliez mon sentiment, si l'on voulait trouver une sorte de pierre de touche de la réalité de la régulation, si un jour, par exemple, on établissait un certain nombre de règles en ce qui concerne la dimension des banques, en ce qui concerne leur respécialisation, car cette respécialisation, à mon avis, est aujourd'hui aussi à l'ordre du jour, je serais beaucoup plus rassuré que d'entendre les hommes politiques, les groupes de pression disserter un peu à perte de vue sur les bonus. Sur les bonus, vous avez peut-être comme moi entendu Adair Turner, là, le patron, pourrais-je dire, des banques britanniques, disons, c'est une diversion populiste.
Absolument.
Et je ne suis pas loin de le penser.
Et écoutez, je partage cette analyse. On peut aussi craindre qu'il y ait, dans ce contexte de crise financière, une certaine arrogance du politique qui pourrait peut-être venir s'ajouter à l'autre arrogance que vous dénoncez d'une façon si précise et si entière dans votre dernière parution. Alors peut-être un dernier mot avant de conclure. Le temps passe très vite avec vous, professeur. Il faudra qu'on reprogramme une autre réunion lorsque vous serez parisien. Une dernière question. Si vous aviez un souhait à émettre auprès des grands décideurs du G20, une priorité, choisir, c'est toujours renoncer. Vous prendrez laquelle ?
Je prendrai celle que je viens d'évoquer. Je prendrai le problème de la concentration bancaire.
C'est ça.
Je prendrai le problème de la concentration bancaire. Et s'il y en avait, si on m'accordait
deuxième
un
chance.
Strapontin, je dirais aussi que j'aimerais que l'on étudiât, si vous voulez, les relations entre le pouvoir politique et le pouvoir financier. Il me semble que nous sommes arrivés à un point où risque de s'établir un certain déséquilibre. Je pense que le pouvoir politique doit reprendre ses marques et doit se donner les moyens de, non pas de contrôler, il est bien certain que la compétition doit jouer, mais malgré tout, d'encadrer un peu cela.
D'accord.
Oui, lorsque, par exemple, je vois des banques qui sont très fortement secourues par l'État et qui transfèrent, car le processus est incontestable, les banques sont devenues maintenant des machines à privatiser les profits et à socialiser les pertes, je m'inquiète un peu et je voudrais, si vous voulez, que ce genre de problème fût abordé dans les instances qui conviennent. Et peut-être pour commencer, au niveau national. Je crois, par exemple, que pour les banques qui sont secourues par les pouvoirs publics, qui mettent donc à la charge du contribuable certains secours, eh bien, il serait normal, sans que l'on alla jusqu'à la nationalisation, qu'une présence des représentants de l'État soit prévue au conseil d'administration.
Eh bien, monsieur le professeur, merci de nous avoir partagé vos réflexions, vos analyses. Vous êtes inquiet sur le phénomène de concentration des banques. Vous souhaitez un retour, si je puis dire, du politique, en tout cas un suivi un peu plus fort que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et je rappelle que vous venez de faire paraître, vous avez fait paraître il y a quelques temps, mais sur un ouvrage qui est particulièrement d'actualité, L'arrogance de la finance, comment la théorie financière a produit le crack. C'était à la découverte, c'était 226 pages, 17 euros. Le professeur Henri Bourguina et Éric Brice. Monsieur le professeur, merci encore, c'était un moment extrêmement agréable. J'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau sur notre antenne.
Merci, cher monsieur. Thank you.